Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Mao est mort en 1976. La révolution culturelle au bilan apocalyptique s'est terminée et ses victimes ont été réhabilitées. Cependant, le peuple chinois et particulièrement la jeunesse était exaspéré par les injustices, la misère, la corruption et aspirait à des changements. Les étudiants qui avaient découvert un autre mode de vie à travers la musique, la littérature, les informations venues de l'Occident réclamaient des réformes démocratiques. Hu Yaobang, premier secrétaire du parti, a alors accompli des réformes politiques et économiques qui allaient déplaire aux conservateurs du parti. Ceux-ci reprocheront d'ailleurs à Hu Yaobang d'être trop proche des étudiants. Obligé de démissionner en 1987, il deviendra le symbole de la réforme tant attendue. À sa mort en 1989, 100 000 Chinois, essentiellement des étudiants, se rassemblèrent alors sur la place Tiananmen à Pékin pour lui rendre hommage. Comme on leur refusait de se recueillir devant sa dépouille, ce mouvement pacifique prit de l'ampleur et atteignit 1 million de manifestants. On sait que ces manifestations étaient violemment réprimées. On ne connaîtra jamais le nombre exact de tués, de blessés, de disparus, de personnes exécutées ou emprisonnées de nombreuses années après des procès insensés pour des fautes absurdes ou imaginaires. Une chape de silence depuis est tombée sur ces gens innocents, courageux et sans armes, et les étudiants qui, après de longues années de prison, ont recouvré la liberté sont considérés depuis comme des parias, des fauteurs de troubles, méprisés, rejetés et souvent sans travail. C'est ce silence et cette injustice que Liao Yiwu, lui-même victime de cette répression, veut combattre en donnant la parole à différentes victimes de ces journées tragiques. Son ouvrage intitulé « Des balles et de l'opium » est édité par la maison d'édition Globe et je suis heureuse de recevoir l'auteur et son interprète, merci à elle d'être venue, Marie Haussmann. Alors, je ne sais pas comment on prononce correctement Liao Yiwu. Liao Yiwu, voilà. Liao Yiwu, bonjour. Et merci d'être là. Alors, vous êtes écrivain et votre ouvrage, L'Empire des Bas-fonds, vous a fait connaître du public français. Dans un autre de vos livres intitulé « Duet rouge », vous qui êtes agnostique, vous soulignez admirer l'engagement pour la liberté d'expression des chrétiens de Chine et vous partagez leur quête de sens dans une société où l'argent est roi. Ce nouvel ouvrage, « Des balles et de l'opium », parle du massacre de Tiananmen le 4 juin 1989. 26 ans se sont écoulés depuis. Alors, pourquoi ce livre ?
Ce livre, je l'écrivais depuis longtemps. Il a fini par paraître au 30e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Mais en ce moment, il se passe un peu la même chose à Hong Kong. Vous voyez, on a l'impression qu'on est en train d'aller vers un deuxième massacre de la place Tiananmen. Donc, tous ces événements me font repenser aux événements d'il y a 30 ans, leurs similitudes et leurs dangers.
D'accord. Et en même temps, ce nouvel ouvrage, dans ce nouvel ouvrage, vous rendez hommage à votre ami Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2010. Il est mort en 2017 en prison. C'était un intellectuel, un poète, un sage, écouté, respecté. Et il a eu un rôle déterminant auprès des étudiants de Tiananmen. Et c'était votre ami.
Oui, c'est mon ami.
Oui, Liu Xiaobo était mon ami, tout à fait. C'est aussi un personnage qui a joué un rôle vraiment emblématique durant les événements de la place Tiananmen en 1989. Et il a marché dans les traces de Vaclav Havel, de Gandhi, de Mandela. C'était quelqu'un qui préconisait la non-violence et il l'a pratiqué jusqu'au bout. Il a été jeté en prison en 2008, il est mort 9 ans après. On peut dire que tout ça, c'est un processus tragique qui est dans la continuité du massacre de Tiananmen. Sa mort, c'est aussi une conséquence de cette répression.
Oui, alors un autre personnage emblématique que l'on a appelé Wang Weiling, seul face au char, on l'a montré, cette photo a fait le tour du monde, une image symbolique qui montre la ferveur de la jeunesse, son courage et le fait qu'elle est sans armes.
Comme vous dites, Wang Weilin est un symbole de cette démarche pacifique. On le voit debout comme ça devant les tanks. Et on voit que les tanks ont écrasé des gens pacifiques. Wang Weilin est le même genre de symbole que Liu Xiaobo. Ils ont simplement connu des destins différents. Wang Weilin a disparu. En fait, on n'a jamais vraiment connu son identité. On ne sait pas où il est. Quant à Liu Xiaobo, hélas, ils l'ont tué en prison. Et donc, ils ont assassiné deux personnes qui étaient parfaitement pacifiques.
Alors, vous-même, Liao Yiwu, vous avez connu 4 ans de prison, torturé, contraint à l'exil. Pour quelle raison ?
Pourquoi est-ce qu'ils m'ont poursuivi comme ça ? C'est parce que mon travail, c'est de noter l'horreur, noter les crimes, raconter la vérité et le transmettre aux autres. Et quand ils ont su que mon livre risquait de paraître à l'étranger, ils m'ont dit « si ce livre paraît, tu seras puni cette fois non pas de 4 ans de prison, mais de bien plus que 10 ans ». En fait, le gouvernement chinois a surtout peur d'une chose, c'est que la vérité sorte de ce pays.
Vous avez voulu recueillir le témoignage d'anciens prisonniers sur les circonstances de leur incarcération et les conditions dans lesquelles ils l'ont vécu, et également leur libération. Comment les avez-vous choisis ?
En fait, j'ai retrouvé la trace de tous ces gens qui ont été condamnés pour leur participation aux événements du 4 juin 1989. Bon, d'abord parce que moi-même j'ai fait de la prison, donc c'est un milieu que je connais bien. Et c'est aussi grâce à l'un d'entre eux qui s'appelle Wu Wenjian et qui a lui aussi fait de la prison après le 4 juin. Et moi, à l'origine, je me trouvais au Sichuan, donc en fait, c'était assez loin de Pékin et je n'étais pas vraiment au courant de tout ce qui s'était passé. Je ne savais pas qu'il y avait tant de citoyens tout à fait simples, mais qui s'étaient montrés très, très courageux et qui avaient résisté. Donc c'est ça que j'ai voulu transmettre une fois que je l'ai découvert moi-même.
Oui, et alors, est-ce qu'il était dangereux, justement, d'interroger ces personnes ? Est-ce qu'il a eu des refus ?
Interviewer ces gens, ce n'était pas aussi dangereux qu'interviewer des personnages comme Liu Xiaobo ou Madame Ding Zilin, celle qui a rassemblé la liste des morts de Tiananmen, parce qu'eux étaient connus, surveillés et que c'était difficile de s'approcher d'eux. Mais ces gens que j'ai interviewés, on peut dire qu'ils étaient déjà rejetés par la société. Ils étaient déjà tout à fait à la marge de la société. On peut dire aussi que c'était vraiment la couche la plus basse de la société. Et donc, certains d'entre eux ont refusé mes interviews, pas tellement parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils disaient « Oh, à quoi ça sert tout ça ?» Mais après, mon livre est paru dans de nombreuses langues. Il a été édité, diffusé un peu partout. Et ça s'est apporté un témoignage à un phénomène qui a été très méconnu.
Tout à fait. Et en fait, ce qui frappe dans cet ouvrage, en lisant les témoignages de ces personnes, c'était des jeunes gens, pleins de naïveté, mais de confiance, d'espérance. Et évidemment, on pense à notre mai 68 en France, où c'était des jeunes aussi, et finalement, qui évidemment espéraient quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'on est effaré de voir comme ces manifestations étaient réprimées. On peut dire, on peut faire presque. C'est la jeunesse qui se révoltait.
Comme vous dites, ceux qui sont entrés en prison à cette époque-là avaient 10 et quelques années ou 20 et quelques années. Ils ont passé de nombreuses années coupées de la société et quand ils sont sortis, ils ont retrouvé une société qui s'était complètement transformée, qui était devenue totalement matérialiste et pour qui la seule croyance, la seule foi, c'était le renminbi, la monnaie chinoise. Et puis d'un autre côté, l'autre aspect qui s'est développé de la même façon à grande vitesse, c'était l'intelligence artificielle et le contrôle absolu de la société par le gouvernement. Alors maintenant, quand on observe ce qui se passe à Hong Kong et toute cette jeunesse qui, elle aussi, veut la liberté, qui est pleine d'espoir et pleine de courage, on se dit, mon Dieu, si ça se reproduit, mais qu'est-ce qui va se passer d'ici 30 ans ? Ce sera la dictature absolue.
Oui, vous avez dit le mot, la dictature. En fait, ce qu'il décrit, ce que vous décrivez, Liao Yiwu, c'est également l'horreur des prisons en 1989. La violence, le mépris, la déshumanisation. Et là, on est atterré, effectivement. C'est le fait d'une dictature.
Cette dictature était violente, mais cette violence se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez l'observer à Hong Kong. Déjà, il y a une jeune fille de 15 ans qui a été assassinée. Déjà, la violence se multiplie dans les rues de Hong Kong. Mais malgré tout cela, les dirigeants du monde entier persistent à avoir des relations avec ce gouvernement chinois comme si c'était un gouvernement normal. Regardez votre président Macron qui va partir en Chine dans quelques jours pour aller signer des contrats avec la Chine. Mais pourtant, la Chine est un danger pour le monde entier. Regardez son développement économique. C'est à l'origine de très graves perturbations du climat. À cause d'elle, à cause du seul le développement de la Chine, la température de la planète risque d'augmenter de 3 ou 4 degrés d'ici quelques années.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Oui, alors malheureusement, on assiste à la loi du plus fort. Et quel était l'état d'esprit des prisonniers qui, ma question d'abord va être celle-ci. En fait, lorsque les étudiants ont manifesté, ils avaient foi en l'idéal communiste. Et ensuite, quand ils sont sortis de prison, dans quel état d'esprit étaient-ils ?
他不是对共产党的信仰，是因为
non, je ne suis pas d'accord avec vous. L'idéal de la jeunesse de l'époque, ce n'était pas du tout le communisme. C'était déjà des notions comme liberté, égalité, fraternité. Le président Mao est mort en 1976. Et après, on a connu une période d'ouverture dans les années 80 qui nous a permis de découvrir les textes devenus de l'Occident et donc la pensée démocratique. Et donc, dans la jeunesse, il y avait cette idée qu'il y avait quelque part au-delà des mers, cet Occident qui était le lieu où on respectait les droits de l'homme. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le Parti communiste chinois est en train de remporter la bagarre et que petit à petit, c'est sa vision du monde qui est en train de s'imposer et la notion de droits de l'homme qui est en train de reculer.
Vous avez parlé de la découverte de ces prisonniers d'un monde totalement transformé, par l'essor économique de la Chine, un pays extrêmement puissant, il faut le dire maintenant. Les mentalités ont changé. Y a-t-il eu pour eux une possibilité de réinsertion ?
Oui, pour la réinsertion de ces gens, c'est vraiment extrêmement difficile. Mais ce que je fais en tentant de transmettre ce qui leur est arrivé, leur destin, j'essaye de faire savoir aux générations suivantes ce qu'ils doivent savoir. C'est très important parce que s'ils ne sont pas conscients de ce qui s'est passé dans ces années-là, jamais ils ne rassembleront suffisamment de courage pour se battre contre la dictature. Il faut qu'il y ait cette bataille contre la dictature, sinon on n'en sortira jamais.
Est-ce que votre livre pourra entrer en Chine d'une manière ou d'une autre ?
C'est vrai que la censure en Chine est très dure et que c'est donc difficile de lire mon livre. Mais je pense que petit à petit, il va pénétrer et que sous le manteau, bien sûr, et que des Chinois pourront le lire. Mais peut-être ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que, par exemple, Wang Dan, qui était un des leaders estudiantins de la place et qui maintenant vit aux États-Unis et qui a une grande influence, il a acheté plusieurs exemplaires de ce livre et il les a offerts à des membres du Sénat et du Congrès américain, et notamment à Nancy Pelosi, qui est une des leaders de la lutte contre la dictature chinoise. Donc je dirais que le rôle d'un écrivain, il est double. Il est à la fois vers ses compatriotes, bien sûr, mais dans mon cas, je dirais aussi que c'est très très important que l'Occident prenne connaissance de la véritable nature du gouvernement chinois et que du coup, il adopte la politique qui convient face à une dictature de cette espèce.
Oui, alors, évidemment, on sait bien quand même que face aux Chinois, il y a l'Amérique, hein, qui est les USA, qui sont très puissants. L'Europe a un degré moindre et en ce moment, elle a beaucoup de problèmes à s'imposer. Donc, évidemment, je pense que beaucoup de gens espèrent que les dictatures disparaîtront. Et ma question sur les raisons du changement de société. Est-ce qu'il n'y a pas, outre le goût de l'argent, de l'enrichissement, qui a été prôné d'ailleurs par le président chinois, mais aussi le fait d'avoir dû se plier, s'incliner, surtout les intellectuels, face au diktat de la révolution culturelle, où on les a vraiment maltraités. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas instauré un système de peur ?
Le contrôle est très important. Les Chinois ont réussi le contrôle de l'Internet. Et donc, maintenant, ils arrivent à contrôler tout ce que pensent, tout ce que font les Chinois, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur.
Il y a même la reconnaissance faciale, je crois, qui est instaurée.
Oui, mais il y a des espions à l'intérieur des téléphones et sur les réseaux qui s'appellent, comme par exemple WeChat, beaucoup utilisés par les Chinois. À partir du moment où ils entrent sur ces réseaux, le gouvernement peut tout savoir de ce qu'il y a sur leur compte bancaire, ce qu'ils utilisent, où ils vont, ce qu'ils font, avec qui ils parlent, etc. Et ça, en fait, les Chinois vivent avec, mais en même temps, ils le savent. Donc, la peur est intégrée en chacun. Et ça fait que la possibilité de se rebeller est pratiquement nulle. Mais il faut quand même comprendre que ce contrôle incroyable, maintenant, est en train de tomber sur Hong Kong, on assiste. Mais quand Hong Kong sera tombé, l'étape d'après, ce sera Taïwan, puis ce sera le Japon, puis ce sera tout l'Occident. Donc, ne pas être vigilant sur ces problèmes d'intelligence artificielle, c'est potentiellement extrêmement dangereux.
Pour en revenir à ces prisonniers, on sait que les victimes de la révolution culturelle ont été réhabilitées. À vrai dire, je ne savais pas, mais je l'ai appris dans l'ouvrage de Liao Yu. Est-ce que il y a toujours cette espérance de réhabilitation de la part des anciens prisonniers ?
Il y a peu de chances qu'il y ait une réhabilitation parce qu'il faudrait pour cela que le Parti communiste s'écroule. Et pour qu'il s'écroule, il faut qu'il se disloque. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? En Occident, on sait qu'il y a la démocratie. Les Chinois savent que c'est le meilleur système, en tout cas pour le moment. Mais apparemment, l'Occident n'en fait pas la promotion. Il ne contre-attaque pas le gouvernement chinois en essayant de faire avancer ses propres valeurs. En fait, il est dans une position un peu de se défendre, mais très passivement. Il résiste passivement à cette progression du contrôle par la dictature de l'ensemble de la planète.
Vous ne croyez pas qu'on a le sentiment d'être un peu écrasé par la population qui est très importante en Chine? Il y a est-ce que c'est pas ça aussi qui joue? On est face à un mammouth.
Oui, bien sûr, c'est un pays qui est trop grand. Mais c'est justement pour ça que les pays occidentaux devraient faire une alliance. Ils devraient se mettre tous ensemble d'accord pour trouver la façon de contre-attaquer cette dictature. Moi, je pense que, d'un autre côté, c'est très important que je laisse une trace de ce qu'était cette dictature et que dans l'avenir, une fois que le régime se sera écroulé, parce qu'il va bien finir par s'écrouler un jour, les lecteurs comprennent ce que c'était ce mécanisme et que mon livre ait un peu le même effet qu'a eu le livre d'Orwell en écrivant 1984, qui était prémonitoire, mais que mon livre rappelle aux lecteurs ce que c'était que la nature de ce régime et de cette dictature.
Vous déclarez d'ailleurs être un travailleur du souvenir.
Oui, je suis un travailleur de la mémoire parce que s'il n'y a pas des témoignages, si on ne consigne pas ce qui s'est passé, on oublie forcément. Et à ce moment-là, on est dans un système et on ne sait pas comment on est arrivé à ce système. C'est très très important de comprendre les mécanismes qui font qu'une société se transforme en une espèce de monstre. Si on n'a pas cette conscience, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais regardez, maintenant ce qui se passe à Hong Kong, c'est quelque chose pour laquelle le monde entier devrait s'associer pour défendre Hong Kong contre la façon dont la dictature chinoise est en train de s'imposer. Je sais que le président Macron va partir en Chine dans quelques jours, donc je vais confier à Marie un exemplaire de ce livre, Des balles et de l'opium, et qu'ils se rendent compte un peu de ce qui est en train de passer à Hong Kong et à quel point c'est important de défendre cet îlot de démocratie relative peut-être, mais quand même, et où règne encore un état de droit, surtout.
En fait, vous, est-ce que comme votre ami Liu Xiaobo, vous avez eu le sentiment de subir une double peine?
Liu Xiaobo et moi sommes différents. Liu Xiaobo était un idéaliste. Il voulait à tout prix devenir le Gandhi ou la Vaclav Havel de la Chine. Il avait un idéal politique pour lequel il était prêt à se sacrifier. Moi, je ne suis qu'un simple magnétophone de l'histoire. Et c'est à cause de ça que j'ai aussi voulu transmettre le drame de ce destin, qui est un destin unique. Moi-même, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été emprisonnier? Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'aurais pas pu écrire mes livres. Et c'est pour ça que j'ai fui la Chine, parce que j'ai pensé que mon témoignage était plus important que de passer des années et des années derrière les barreaux.
Alors, pour terminer, voudrais lire un extrait d'un témoignage, d'un témoin, qui dit « Le 4 juin a été la période la plus brillante de ma vie. J'étais enfin sortie de cette infernale galopade pour trouver de quoi bouffer. J'avais échappé à la course, à la réussite et à l'enrichissement. Je ne regrette pas. Bien que j'ai plus de 50 ans, je suis encore entier. Je suis convaincue que je tiendrai jusqu'au jour où les victimes du 4 juin seront réhabilitées et où nous pourrons consoler leurs âmes innocentes. » Je trouve que c'est très beau. C'est très beau, et finalement, c'est à tout à l'honneur, évidemment, un honneur qui paraît difficile à vivre, tout à l'honneur de ces jeunes qui se sont sacrifiés.
Oui, ils sont nombreux à penser ainsi. Beaucoup pensent que c'était la période la plus, disons, lumineuse de leur vie. C'était une période où ils s'étaient sortis un peu de leurs préoccupations bassement matérielles. Mais après, ils sont tombés dans un désespoir de plus en plus profond. Et je dirais que maintenant, on est dans la période la plus noire de notre histoire.
Voilà, pour terminer, un grand merci Liao Yu. Évidemment, ces jeunes ont été broyés par une machine encore et toujours en marche. Merci à Liao Yu d'attirer notre attention sur ce qui se passe encore et toujours. Merci de nous encourager à être vigilants.
C'est juste ça,
voilà, c'est mon travail, exactement.
Voilà, je dirai à nos auditeurs, je rappellerai. Vous voulez ajouter autre chose ?
Oui, je voudrais ajouter une phrase. Je voudrais que tous les hommes politiques, tous ceux qui ont de l'influence et du pouvoir, après avoir lu ce livre, comprennent le danger qui plane au-dessus de Hong Kong. Si jamais il se produisait un tel drame, je crois que pour toute l'humanité, ce serait un moment de très grand désespoir.
Oui, voilà. Alors, évidemment, nous ne pouvons qu'acquiescer et avoir le même espoir. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un ouvrage de Liao Yiwu, qui est actuellement en Allemagne, en exil en Allemagne. Cet ouvrage s'intitule « Des balles et de l'opium ». C'est une série de témoignages souvent très précis, mais en même temps difficiles, et en même temps plein d'espoir, mais plein de déception aussi. Voilà, un ouvrage que je vous encourage à lire. Il est édité à la maison d'édition Globe. Et puis, je remercie également l'interprète de cet ouvrage, Marie Haussmann. Vous avez traduit, si j'ai bien compris, c'est cela. Et puis là, vous avez été notre interprète. Et un grand merci à vous. Et merci à vous. Au revoir.